Bonjour à tous. On m'entend ?
Oui.
Je suis contente de vous voir aujourd'hui, de partager ce moment avec vous. Et nous allons continuer notre série sur Exode. Et aujourd'hui, nous allons explorer les chapitres 17 du verset 8 à 19 au verset 6. Alors bien sûr, hein, on ne va pas tout voir, mais j'espère que je vous donnerai envie d'aller lire ces chapitres. Rappelons-nous, Dieu a délivré son peuple de l'esclavage de Pharaon. Et il a montré toute sa puissance à travers les plaies. Et son peuple se retrouve dans un grand voyage à travers le désert. Et là, je vais vous demander de vous créer une image dans la tête. Imaginez à peu près 2 millions de personnes, hommes, femmes, enfants, qui ont fait à peu près 300 km dans le désert en 5 semaines. Ça fait à peu près 8 km par jour. Et dans le désert, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de panneau indicateur. Non, mais Dieu est puissant. Et il a mis à leur disposition les colonnes de nuée le jour et de feu la nuit pour les diriger. Et puis, dans le désert, il n'y a pas de livraison Uber. Non, vous ne pouvez pas choisir votre menu. Non. Mais Dieu est puissant. Il prend soin de son peuple et il va leur procurer manne et caille. Dans le désert, il n'y a pas de soda stream ni de distributeur de glaçons. Mais Dieu est puissant. Et il fait jaillir de l'eau pure et fraîche de rochers. On voit Dieu, depuis le départ d'Égypte, répond aux besoins de son peuple. Parce qu'il est puissant. Il répond aussi, à travers tout cela, à une question. Qui est Dieu ? Vous vous rappelez, on s'aperçoit que le peuple ne le connaît pas vraiment. Eh bien, à travers tout cela, toutes ces épreuves, Dieu montre qui il est. Il est puissant. Il commande les éléments. Il commande la nature pour sa gloire. Tout cela est digne d'un film hollywoodien. D'ailleurs, il y a eu des tas de films faits à ce sujet. C'est spectaculaire. Chaque jour est une aventure. Chaque jour, on voit l'action de Dieu. On voit ses miracles. Et tout ce qu'il fait est visible de tous. Mais on pourrait se poser une question. Pourquoi Dieu fait-il tout ça ? Quel est son but ? Pourquoi, parmi toutes les nations, il a choisi Israël ? Pourquoi il a choisi de sauver Israël ? Et on pourrait transposer cette question à nous-mêmes aujourd'hui. Pourquoi Dieu nous a sauvés ? Pourquoi on est encore sur cette terre. Quelle est notre participation dans ce que Dieu fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire personnellement ou en tant qu'Église ? Alors, le verset 1, le verset 9, chapitre 9, verset 16, dans l'Exode, nous donne une piste de réflexion. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie. C'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. C'est ça le projet de Dieu. Que son nom soit connu de toutes les nations. Dieu a à cœur les hommes, les femmes, les enfants, de toutes les nations. Son cœur de mission, c'est sauver l'humanité. Dieu veut se faire connaître pour sauver. Alors, comment mettre en œuvre ce plan de sauvetage? Nous, son peuple libéré, racheté, comment on va participer à ce plan? Eh bien, on va voir dans les chapitres suivants, 17 à 19, que ce « comment » peut se résumer en deux verbes, « raconter » et « refléter ». Et pour commencer, pour voir comment on peut raconter, on va lire dans le chapitre 18 les versets 1 à 12. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, après tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, se prosterna, le baisa, s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrées. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui nous a délivrés de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon et qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'église d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Alors nous allons nous concentrer sur le personnage de Jéthro. On voit dans les versets... tu peux mettre la diapositive d'avant. Dans les versets 1, que Jéthro est un sacrificateur de Madian, ce qui signifie qu'il doit adorer une divinité païenne. Il ne connaît pas Dieu. On voit aussi que Jéthro vient voir Moïse, car, dans le verset 1, on le voit, il a appris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Donc, on peut dire que tous les événements qui ont été cités avant, passés en Égypte, les plaies, la traversée de la mer des gens, tout ça, ont eu un retentissement parmi les nations voisines. Et aujourd'hui, ces événements seraient certainement passés en boucle sur nos chaînes d'infos continues. Mais en fait, c'est ça que Dieu veut. C'est le dessein de Dieu que toutes les nations voient sa gloire. À plusieurs reprises, Dieu exprime cet objectif. Dans l'Exode, plusieurs versets le montrent, dont celui-là, Exode 14, verset... Non, Ah ben, je ne l'ai pas mis, je vais vous le dire. Verset, Exode 14, verset 18. « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. » Plusieurs fois dans Exode, on voit répéter « Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire. » Alors comment on peut réagir à la gloire de Dieu devant ses marques de gloire, sa puissance? Eh bien, on va le voir dans le passage du verset 9, voilà, celui-là, 9 à 11. « Nous voyons Jéthro se réjouir des œuvres de Dieu. » Dans le verset 9, « Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël. » Jéthro, au verset 10, bénit l'Éternel. Et dans le verset 11, il reconnaît Dieu. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Et qu'est-ce qui a amené Jéthro à cette profession de foi? Ben, c'est tout simplement le témoignage de Moïse. Dans le verset 8, on le voit, Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrées. On est là, au cœur de la mission de Dieu. Dieu a à cœur de sauver l'humanité. Dieu a à cœur à faire un peuple de Dieu de toutes les nations. Et il va y arriver à travers un peuple qui raconte les hauts faits de Dieu sur sa délivrance. Et de la même façon, aujourd'hui, Dieu nous demande de raconter l'Évangile, de raconter qui est Jésus, de raconter son ministère sur terre, son sacrifice sur la croix, la résurrection, sa gloire, afin que, comme Jéthro, un maximum de personnes reconnaissent Dieu comme le Dieu de grâce. Et après cette reconnaissance, on le voit au verset 12, Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit un holocauste à Dieu et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Et là, on voit juifs et non-juifs, les nations toutes réunies autour d'un sacrifice pour prendre un repas en présence de Dieu. Et ce banquet, c'est le point culminant de l'Exode. Ce point culminant de cette sortie d'Égypte. Parce qu'elle va préfigurer le peuple de Christ. Ce banquet entre Jéthro, qui est le représentant des nations païennes, et tous les anciens, Moïse, Aaron, ce banquet de toutes les nations, c'est préfigure l'Église universelle d'aujourd'hui, en Christ, unie en Christ. Et ce moment de banquet, nous le revivrons aujourd'hui, à chaque fois que nous nous réunissons entre frères et sœurs, que nous partageons nos agapes. Vous savez, quand on met les tables là au milieu. Et nous, lorsque nous invitons aussi, nous nous invitons les uns les autres dans nos foyers. Ce banquet, nous le revivons dimanche après dimanche, lorsque, comme tout à l'heure, nous avons partagé le vin et le pain. Et ces moments de partage préfigure un banquier encore plus extraordinaire qui sera éternel lorsque nous serons près du Seigneur. Et on le voit dans Matthieu, chapitre 26, verset 29. Tu dois l'avoir en slide. Non, tu ne l'as pas non plus. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père, le banquet éternel. Et lorsque nous vivons ces temps de partage unis en Christ, eh bien, toutes nos différences sont effacées par l'œuvre de Christ. Notre diversité, ça fait notre richesse. Et on la voit ici dans notre église locale. Si on regarde bien, on est tous d'origines différentes, de pays différents, de langues différentes, de cultures différentes. Nous sommes d'origines socioculturelles différentes. Nous n'avons pas tous les mêmes professions. Et sans parler de nos différences d'âge. On a vu nos petits ce matin, et puis jusqu'à des gens de mon âge, et plus. Et pourtant, chaque dimanche, je suis heureuse de me retrouver ici, et je pense que vous êtes tous heureux aussi, de saluer les frères et les sœurs. Moi, j'ai du bonheur à saluer les uns et les autres, j'ai du bonheur à saluer nos enfants. Parce que nous sommes unis en Christ, nous faisons partie de cette Église universelle. Nous sommes cette nation unie en Christ. Alors, on a vu, il y a cette façon de se réjouir devant le témoignage que l'on peut apporter de notre salut en Christ, ou devant le témoignage des hauts faits de Dieu. Comme Jéthro a réagi de façon extraordinaire, il s'est réjoui. Mais il y a d'autres manières aussi de réagir au témoignage des hauts faits de Dieu. Et on le voit dans le chapitre 17 avec Amalek. 17, verset 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amalek est le chef d'une tribu pillarde qui représente les nations qui sont hostiles à Dieu. Les Amalécites sont des descendants d'Ésaü et ils représentent le désaccord entre le peuple juif et les autres nations. Et plus fondamentalement, on pourrait dire que les Amalécites représentent l'hostilité entre Dieu et Satan. Et on voit Amalek qui combat le peuple de Dieu. Et en attaquant Israël, c'est Dieu qu'Amalek combat. Et le bâton, c'est le jugement de Dieu contre les Amalécites ou contre toutes les nations qui s'opposera à son peuple. Et qu'est-ce qui en suit ? Ils sont anéantis. Dans le verset 13, « Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » Si quiconque lève la main contre Dieu ou contre son peuple, Dieu exécutera son jugement. Si quiconque dresse le poing contre Dieu, Dieu réagira. Car ce n'est pas la lignée du serpent qui aura le dernier mot. Le peuple de Dieu est vainqueur, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est plein d'espérance. Alors ces deux personnages, Jéthro et Amalek, représentent en effet toutes les nations païennes, et nous montrent qu'il y a plusieurs attitudes possibles devant le témoignage des hauts faits de Dieu ou devant l'annonce de l'Évangile. On peut avoir une profession de foi, comme Jéthro, qui se réjouit, qui bénit, qui reconnaît Dieu. Mais d'autres nations peuvent réagir par la peur. Et on le voit dans le chapitre 15, verset 16. L'angoisse, là je pense que je l'ai. Non, je ne l'ai pas. L'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Ton action extraordinaire les a tous pétrifiés jusqu'à ce qu'il ait passé, ce qu'est passé ton peuple, ô Éternel, jusqu'à ce qu'avait passé ce peuple que tu étais acquis. Donc, certaines nations, devant les hauts faits de Dieu, devant ce témoignage, peuvent avoir très peur. L'angoisse, on parle panique. Et puis, une autre réaction, c'est la violence, comme Amalek. À travers Jéthro, Dieu enseigne à son peuple que son salut est fait pour être raconté, pour être célébré, partagé avec les nations. Et nous, nous sommes appelés à proclamer notre témoignage à toutes les nations. Quant aux réponses que ces témoignages suscitent, elles peuvent être diverses, parfois encourageantes, parfois moins favorables. Mais tout est entre les mains du Seigneur. Le plan de Dieu pour les nations, c'est le salut. Notre mission, c'est de témoigner, mais pas que. On va le voir à la suite dans le chapitre 19, chapitre 5 à 8. Maintenant, si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Moïse retourna au camp, convoqua les responsables du peuple, leur transmit toutes les paroles de l'Éternel. Alors le peuple s'écria à l'unanimité, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta à l'Éternel la réponse du peuple. Et dans les versets 5 et 6, on voit que Dieu établit son alliance avec son peuple, qu'il va faire d'Israël un royaume de prêtres, ce qui signifie que tout le peuple a un ministère devant Dieu, qui consiste à témoigner devant les nations et à mener une vie de sainteté. Vous serez une nation sainte, mise à part, distincte des autres nations, ce qui a pour conséquence de garder sa pureté. Ce matin, en début de culte, Mika nous a parlé de la sainteté, être mise à part. Cette mission reçue au Mont Sinaï s'accomplit aujourd'hui dans l'Église. L'Église est la nation qui est sainte, comme Dieu est saint, afin de manifester à toutes les nations un peu de ses attributs. Et c'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre 1, 14, et lui je l'ai. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. La sainteté de Dieu qui se reflète dans notre vie et qui ne devrait pas laisser indifférent. Nous vivons parmi les nations, mais n'oublions pas que ce qui rend nos témoignages authentiques, c'est l'impact de l'Évangile dans notre quotidien, dans nos vies, dans notre assemblée. C'est ce petit quelque chose qui nous différencie de nos compatriotes, de tous les voisins, de tous les gens, et qui devrait interpeller et susciter de la curiosité envers Jésus. Et on le lit dans 1 Pierre 2, verset 12. Voilà. « Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Alors, Dieu est saint, nous sommes une nation sainte, reflétons un peu des attributs de Dieu, de cette sainteté, dans nos relations, dans la famille, dans notre quartier, dans notre travail, dans les associations que nous fréquentons, reflétons un peu de bonté, de justice, d'empathie, de patience, que nos paroles soient sages, vraies surtout, l'authenticité. Parce que comment puis-je témoigner de l'amour de Dieu si ma vie n'est pas en adéquation avec ce que je témoigne? Et ça implique pas de faire des choses extraordinaires. Dieu nous demande pas de faire des choses extraordinaires. Parfois, un sourire suffit. Et je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis grand-mère et j'ai une petite fille, ma troisième petite fille, qui a toujours le sourire. Et quand elle vient à la maison, je l'emmène au parc. Eh bien, il y a 600 mètres de la maison au parc. Mais on met un temps fou pour faire ces 600 mètres. Vous savez pourquoi? Parce que, comme ma petite fille est sans arrêt en train de sourire, et que dès qu'elle voit quelqu'un qui la croise, elle se met à chanter, elle se met à applaudir, elle se met à faire les marionnettes, ben, qu'est-ce que font les gens? Ben, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent et ils disent « Oh, mais quelle est belle cette petite fille !» Et puis on se met à discuter. On se discute de la pluie et du beau temps. Le pouvoir du sourire, c'est extraordinaire. Et c'est rien, un sourire. Qu'est-ce que ça nous coûte? À part d'avoir la joie dans le cœur. Eh oui. Et puis, il y a aussi la disponibilité. C'est quelque chose de très rare aujourd'hui, la disponibilité. Mais moi, par exemple, je fais mes courses, je fais encore mes courses dans les grands magasins. Eh bien, je prends mon temps parce que je suis à la retraite. Et puis surtout, c'est que j'aime bien regarder les prix, les trucs, les machins. Et comme je prends mon temps, que je suis au milieu des allées, que je regarde, ben les gens viennent me voir, puis ils me disent « Dites donc, madame, vous pouvez m'aider, là, il y a un article que je ne peux pas... » Il y a des gens qui sont plus petits que moi, que je ne peux pas atteindre. Ou bien il y a des personnes qui me disent « J'arrive pas à lire ce qui est écrit. » Un peu de disponibilité. Et puis du coup, on discute. Puis les gens, ils sont tout contents. C'est rien du tout. Et puis, quand on est dans le parc, justement, avec nos petites filles, eh bien, relever un enfant qui est tombé et le consoler en attendant que maman, papa arrivent. Et puis, du coup, ben, on discute avec les parents. « Ah, mais vous avez ramassé notre petit, os comme j'ai gentil. Ben, » c'est tout à fait normal. Et puis, pour notre voisinage, ben, prêter un outil. Et puis, quand on est au travail ou qu'on fait nos études, qu'est-ce que ça nous coûte de donner ses notes de cours ou de réunion à un collègue plutôt que de jouer la rétention de l'information? pour garder le pouvoir. Hein, ça, on connaît. Hein. En fait, et en tant qu'assemblée, faire des petits colis pour les SDF, pour une association qui n'est pas chrétienne. Qu'est-ce que c'est que tous ces colis que ces gens amènent là ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ça peut interpeller. Et puis faire les petits ateliers créatifs, accueillir des enfants pour faire des jeux de société, etc. Tous ces petits gestes. Dieu ne nous demande pas de faire des choses incroyables pour témoigner. Dieu ne nous demande pas de faire des choses incroyables pour refléter un peu de sa sainteté. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Parce que pendant très longtemps, moi, je me suis sentie très culpabilisée parce que je n'ai pas la capacité de sortir dehors et de dire « je crois en Dieu », de témoigner comme ça. Je suis émerveillée quand je vois des frères et des sœurs faire comme ça. Mais moi, ce n'est pas dans ma nature, je n'y arrive pas. Mais par contre, j'ai perdu de la culpabilité, je me sens mieux, parce qu'au fil des ans, je me suis aperçue que finalement, Dieu ne me demandait que d'être moi-même, d'avoir ces attitudes, ce sourire, d'être disponible, de faire des petites choses qui créent des opportunités. Eh bien, figurez-vous qu'à travers ces opportunités, ben, je peux dire autour d'un café avec ma voisine, ben, tu sais pourquoi je suis, parce qu'elle m'interroge, ben, je suis comme ça parce que j'ai Dieu dans mon cœur. Un jour, Dieu a changé ma vie. Je peux le dire même de façon totalement naturelle au fil de la conversation avec des parents qui sont dans le jardin. Je ne fais pas des grands discours, je ne suis pas capable de dire tout l'évangile en 5 minutes. Non, je ne sais pas faire ça. Mais j'ai appris au fil du temps à faire des petites choses. Dieu me demande comme mission de témoigner et de refléter un peu de ce qu'il est, de ne pas laisser indifférent le monde dans lequel je vis. Il ne me demande pas de transformer les cœurs, ça c'est son travail. Alors en conclusion, maintenant on a peut-être quelques éléments de réponse à ces deux questions. Pourquoi Dieu a sauvé Israël ? Pourquoi Dieu m'a-t-il sauvé ? Eh bien tout simplement, pour participer à ce plan de sauvetage de toutes les nations, à ma petite place. Juste témoigner, refléter un peu de la sainteté de Dieu. Alors, cette semaine, comment avez-vous, vous, relevé ce défi ? Merci Seigneur, parce que tu nous as sauvés, et que tu nous as rendus ainsi participants de ton plan de sauvetage pour les nations. Aide-nous à dépasser nos obstacles pour raconter tes œuvres et te refléter dans le monde. Merci Seigneur. Merci de votre attention.